êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanret, qui a créé cette émission et qui l'a animée pendant 10 ans. Yves Tanret, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, quelques semaines après sa disparition, le 12 avril dernier. Pour évoquer sa mémoire, amis écrivains se retrouvent Jean-Michel Yoyot, Alain Amariglio et Frédéric Gournay, son fidèle chroniqueur à qui il a tant appris et à qui il a légué de son vivant La vie est un roman. C'est lui que vous entendez en ce moment même. Bonjour Jean-Michel, bonjour Alain.
Bonjour. Bonjour.
Parlons de Yves d'abord, de son enfance qui n'a pas été des plus faciles. Yves est né en Belgique en 1948, juste après-guerre. Il a perdu son père très tôt et sa mère vendait ses charmes, comme on dit. Donc il a été placé dans divers pensionnats avant d'être recueilli par ses grands-parents qu'il quitte à 17 ans. Jean-Michel, vous êtes un très vieil ami de Yves. Il parlait facilement de cette enfance qui n'a pas été des plus évidentes.
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Il en parlait facilement. Il a écrit aussi dessus. Le détail, je trouve qui est le plus intéressant, c'est que, en fin de compte, peut-être a-t-il devenu un écrivain à cause de cette enfance. Donc sa mère a été successivement une prostituée et une maquerelle. Et elle avait une espèce de baraque en bois. Et sous le comptoir de la baraque, quand venaient les proxénètes, le petit Yves lisait. Mais il lisait parce que c'est ce qu'il avait trouvé de plus scandaleux pour un proxénète. C'est de faire une action inutile qui ne rapporte pas d'argent, c'est lire. Ouais. Et peut-être, il ne serait pas, il le dit, formulé un peu comme ça, peut-être il n'aurait pas été écrivain, il n'aurait pas été critique d'art, s'il n'y avait pas eu les macros, en gros. Voilà. C'est autrement, on connaît assez bien de façon très très biaisée par lui-même son enfance. Il a écrit des livres dessus. Il a écrit un livre tout à fait admirable qui s'appelle Fourte,
paru chez Mediapop,
voilà, qui raconte une espèce de, autant je me souviens, je ne l'ai pas relu depuis longtemps, une révolte où il met, je sais plus, il détruit une école quoi, quasiment, si je me souviens bien. Tous les écoliers se révoltent, etc. Des choses comme ça, voilà.
Mais vous, Jean-Michel Yoyot, comment vous l'avez rencontré?
Alors ça, c'est assez amusant. Il se fait que un jour, j'ai été invité à une réunion féministe organisée par une dame qui s'appelait Madeleine Laïc, qui était assez connue dans les milieux féministes à l'époque. Mais arrivé chez elle, il y avait un tas de dames de tous les âges, et deux hommes, Yves et moi. Alors, comment on est arrivé là? On avait travaillé tous les deux avec une personne qui est une poétesse, auteure dramatique, actrice et metteuse en scène de théâtre, qui s'appelle Monique Grégo. Et l'un et l'autre, on avait travaillé dans l'action culturelle en banlieue avec Monique Grégo. Voilà. Avec des jeunes supposés délinquants. Ce n'est pas plus délinquants que vous et moi. Ils savaient simplement que c'est besoin qu'on les écoute comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Alors, ensuite, comme on est devenus amis, à la fin de cette réunion, on est sorti, lui rentrait, je ne sais plus, chez lui, vraisemblablement, et moi j'allais au travail. À ce moment-là, je travaillais dans une annexe du musée Guimet, dans le 16e, et on s'est trouvé à prendre le même bus. Et là, alors là, c'est complètement surréaliste, on discute, et je ne sais pas par quel biais on est arrivé là, à discuter de Jean-Pierre Voyer, dont on connaissait les écrits.
Le secrétaire de Guy Debord.
Le producteur de Guy Debord.
Producteur,
le
oui.
Producteur, enfin bon. C'est comme ça que Guy Debord voulait le présenter. En fait, c'est lui qui a négocié les contrats avec les Bovici, entre les Bovici et Debord. Ouais. Jean-Pierre Voyer, on en discute, on connaît ses écrits, notamment un livre qui reste extrêmement drôle, on dirait un peu du Swift. Bon, je dis ça à Voyer, il n'était pas content. Qui s'appelle « Une enquête sur la nature et les causes de la misère des gens ». Et qui est en fait une critique de Debord. Donc on se trouve à parler de Voyer. Peu de temps après, en même temps, bon, me parlant de Voyer, Yves me parle d'un ami à lui qui s'appelle Frédéric Pajac. Frédéric Pajac, alors, c'est compliqué. Jean-Pierre Voyer, pourquoi il me parle de Frédéric Pajac? Parce que Jean-Pierre Voyer est l'amant de la mère de Pajac. Et Pajac et sa sœur, que j'ai très bien connue, appelaient Voyer Vert de Gris. Voyer était très beau, jeune, même après. Très, très beau, mais toujours habillé en treillis, avec des allures très militaires. Là-dessus, Yves me dit, mais écoute, je dois aller à Lausanne. Pajac est à Paris, il vient nous chercher. Et on a rendez-vous avec Pajac, et là, Pajac nous dit, bon, on part à deux voitures, il y a Jean-Pierre Voyer avec moi. Donc, je ne sais plus comment on a fait, il y en a un qui était dans la voiture de Pajac, l'autre dans la voiture de Jean-Pierre Voyer. Comme ça, j'ai rencontré Jean-Pierre Voyer. Voilà, voilà comment ça s'est fait. Et
donc, c'est la fameuse connexion avec les situationnistes, les héritiers du situationnisme, voilà, qui ont tant marqué Yves.
Oui, oui. Oui. Oui, oui.
Alain, vous avez écrit avec Yves. Comment vous l'avez rencontré?
Alors moi, je dois dire, je suis très, très ému d'être ici parce que c'est... Dans la première de ses émissions, je l'interrogeais. Enfin, c'est comme ça qu'il a inauguré son émission pour se présenter un petit peu. Et quand j'ai entendu tout à l'heure ce générique, c'est vrai que j'ai l'impression que c'était hier, vraiment. C'était il y a 10 ans. Et j'ai l'impression que c'était hier que je l'ai rencontré. Ça fait beaucoup moins longtemps que Jean-Michel, que je l'ai découvert finalement quand j'étais instituteur, parce que j'ai fait pas mal de choses. Et à un moment donné de ma vie, j'étais instituteur à la Butte aux Cailles, qui est à deux pas de là où il habite, avec Magali, Ulysse et Anna-Livia, leurs enfants, que je salue. Donc moi, j'étais l'instit d'Ulysse, en fait, qui était au CM1. Et qui était un élève tout à fait hors norme, d'une manière différente de celle de son père, mais évidemment hors norme, non standard, disait Yves. Et un jour, moi je ne savais pas du tout enfin, qui étaient les parents de mes élèves. Hein, et un jour, Ulysse m'avait dit, on allait à la piscine et souvent on discutait avec, enfin c'était l'occasion de discuter, de faire autre chose un petit peu que la routine scolaire. Et il m'avait dit, ben moi, il avait compris, Ulysse, que j'aimais bien les livres, la littérature. Il m'avait dit, ben moi, mon père, il écrit des livres. Bon, j'étais assez épaté. Après coup, je me suis rendu compte que dans cette classe, il y avait beaucoup d'enfants d'auteurs. Et il me dit, il a écrit un livre que personne ne lit, sur un livre que personne ne comprend. Et alors, bon, c'est trop fort pour moi à ce moment-là dans la rue. J'ai regardé après, bien sûr, ce que ça pouvait vouloir dire. Et il avait ajouté, et c'était drôle, c'est pour ça que je m'appelle Ulysse. Et le livre en question, c'était... Enfin, le livre écrit par son père et Frédéric Pajac, que vous venez de mentionner, c'est Humour, donc une biographie illustrée et humoristique de Joyce. Et puis Joyce, évidemment, c'était le grand homme d'Yves Tanret. Et puis surtout, Ulysse, c'était un de ses livres de chevet. Enfin, il y en avait d'autres, mais il était vraiment très, très fasciné et admiratif de ça. Et c'est comme ça que j'ai, en tout cas, situé le personnage, parce qu'à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Il était venu qu'une fois à l'école et il avait pas, c'était pas son univers, il n'était pas emballé. Mais à la fin de l'année, il m'avait offert Maman, et avec une très gentille dédicace. Et c'est là qu'on avait commencé vraiment à discuter, à parler. Et donc pour moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu avec une, une certaine naïveté de ma part, parce qu'il n'était pas du tout... On est très différents. Effectivement, on s'est très bien entendu et nous avons travaillé ensemble, et ça c'est vraiment une expérience assez extraordinaire, dont on pourra reparler si vous le souhaitez.
Bien sûr.
Mais qui pour moi en tout cas était très formatrice, et le mystère, c'est pourquoi on s'est bien entendu à partir du moment où j'incarnais un petit peu des choses qui n'étaient pas sa tasse de thé, pour le dire gentiment, quoi. Des fois, il me dit, mais toi, t'es un bon élève. Bon élève dans sa bouche, c'était loin d'être un compliment. Et d'ailleurs, de manière générale, je remarque ça, c'est que cette expression n'est pas un compliment. Et pour moi, je dois le dire, et donc souvent on rompait des lances, elle l'est toujours, mais je comprends ce qu'il voulait dire. Et en fait, on sait comme ça... Je dirais pas apprivoisé, mais on s'est appris des choses. Alors moi, j'estime en avoir appris beaucoup plus que lui.
Il faut un peu rappeler sa vie. On a parlé de son enfance, de sa jeunesse. Très tôt, il quitte ses grands-parents, et il vit de petits boulots, et il est attiré assez rapidement par l'étranger. Il part en voyage, il part en Afrique, il part en Israël, et il bouge beaucoup. C'est un voyageur, on peut dire un aventurier, qui prend des risques. Rien... a priori, ne le disposait à devenir écrivain, historien d'art, animateur radio, à plonger comme ça dans ce monde de la culture. Quel était le...
Il fait des études en Suisse.
Oui, alors c'est ça, on va en parler. Donc, il passe son bac en candidat libre, ce qui n'est pas un mince exploit à l'époque. Et ensuite, il fait ses études, il passe une licence.
En histoire sociale.
Et il devient prof de fac à Mulhouse. Donc Jean-Michel, vous l'avez bien connu quand il est devenu professeur et quand il a commencé à sortir des livres.
Alors à Mulhouse, c'est une curiosité, c'est que son poste dépendait du ministère de l'Intérieur. Et pas de l'éducation nationale.
Ouais.
Voilà. Il détestait Mulhouse et c'était un peu un sujet de conversation. Il y a quelqu'un qui a dû enseigner, je crois, à Mulhouse à un moment donné, c'est Henry Miller. Dans le Tropique du Cancer, il raconte comme la ville est détestable.
Et vous l'avez vu, devenir écrivain, hein, d'une certaine manière, parce que il a connu le succès, entre guillemets, la notoriété un peu tard.
C'est une notoriété relativement confidentielle.
Oui.
Même si parfois il a publié dans des collections, ils aiment ça, c'est une collection de merde, etc. Je lui dis, écoute, il y a mon ami Jean-Christophe Bailly. Tu peux pas, qui publie dedans, tu peux pas dire que c'est une collection de merde. Bon, voilà. Mais il avait aussi le sentiment qu'il ratait tout ce qu'il faisait. Hein. Il avait un sentiment d'échec. Et ses rapports avec Pajac, d'ailleurs, sont construits là-dessus. C'est-à-dire que je lui disais, mais écoute, Pajac, il est odieux avec toi. Je comprends pas que tu laisses faire comme ça. Et il me dit, Pajac, c'est mon principe de réalité. C'est le côté un peu cuistre, comme ça. C'est mon principe de réalité. Sans lui, je ferais rien. Mais je pense que c'est... il le croyait. Il le croyait, qu'il croyait que c'était Pajac qui le poussait au cul et que lui, il écrivait sans nécessité. Et il disait, mes livres ne sont pas bons, mais à force. Il me disait même, c'est comme Marguerite Duras, c'est pas bon, mais à force, c'est devenu génial.
Il faut rappeler qu'en 73, il sort un petit livre auto-édité, un conte d'auteur, comme on disait à l'époque, qui s'appelle « L'été ». Et ça lui a permis effectivement de rencontrer des écrivains et des artistes. Donc vous l'avez dit, il a sorti un livre sur Joyce avec Frédéric Pajac. Frédéric Pajac, donc, c'est un dessinateur qui a travaillé avec Jean-Édouard Nalier dans l'Idiot International, qui après a sorti L'Imbécile. Et c'est vrai qu'il avait des rapports passionnés, conflictuels avec lui.
Oui, sadomaso. Oui, clairement. Clairement. Alors Pajac est une personnalité assez, je dirais, assez persécutrice. C'est... Il a de grands talents, de grandes qualités. Je dirais que souvent, les rapports avec lui, les rapports personnels gâchent le travail, le plaisir qu'on a à travailler avec lui. Quoi. Quand Pajac était rédacteur en chef de ce journal lausannois qui s'appelait Voir, qui est un journal culturel, qu'il avait repris, dont il s'était littéralement emparé en achetant des parts, etc., etc., jusqu'à actionnaire majoritaire. Là, il faut dire vraiment une chose qui est de formidable que Pajac a faite, c'est qu'il n'a jamais censuré un auteur. La seule chose, moi je me plaignais d'ailleurs, je lui disais, mais écoute, tu pourrais lire quand même, c'est ton journal, tu es le rédacteur en chef, tu pourrais lire les articles. Il me disait, je les lirai quand c'est imprimé. Jamais personne, un magazine, ça n'existe nulle part, hein, mm-hmm. un magazine qui ne censure pas, même pour des questions de place. J'avais tendance à faire long, à faire plus long que la place qui m'était allouée. On me rajoutait des pages. C'est Tanré, il faisait les deux tiers du journal, carrément. Moi, je suis entré dedans à la demande de Tanré, qui en avait marre de faire le... qui commençait à être un peu claustrophobe, et à ne plus supporter les salles de cinéma. Il n'est plus jamais allé au cinéma après. Donc, il m'a dit, écoute... tu flattes un peu le public suisse, il faut quand même que tu parles un peu du cinéma suisse, mais tu fais ce que tu veux. Voilà. Donc, brusquement, Pajac a vu dans son propre journal apparaître ma signature. Il n'a rien dit. Ça s'est passé comme ça. Donc ça, c'est quand même... C'est des conditions de travail absolument exceptionnelles.
Vous êtes bien sûr à Ligre FM 93.1, dans l'émission « La vie est un roman » d'Yves Tanré, à qui nous rendons hommage en ce moment même. Alain, est-ce que vous voulez bien nous lire un extrait de « Maman » ?
Oui, alors je vais lire le début, en fait, qui nous permettra de voir comment le livre est construit, parce que ça avait été, ça on en a beaucoup parlé avec lui, ça avait été un travail long pour lui, qui est à la fois un travail de deuil, puisqu'il avait perdu sa mère, et puis un travail de recherche sur la forme. Et Yves disait que quand il écrivait, il était toujours en équilibre sur un fil, entre le plat et le bizarre. Et là, il était du côté plat. Il a longtemps été du côté plat, ce qui d'ailleurs, pour lui, n'était pas forcément un grave reproche, mais ce n'était pas ce qu'il cherchait à faire. Et donc, à un moment donné, sous l'influence de deux livres, c'était souvent comme ça avec lui, c'est les livres qui alimentent les livres, il a trouvé cette forme qu'on va comprendre tout de suite, puisqu'en fait, c'est sa mère qui parle. Et ce sont de courts paragraphes rythmés, qui n'ont pas forcément, enfin qui n'ont en général pas de rapport l'un avec celui qui lui succède. Je ne discute pas l'hospitalité. Tu es de mon sang, mais tu viens chaque fois sans rien, habillé comme un chiffonnier. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. T'as vu ces photos de moi à poil ? Ce sont celles que j'envoyais à Dany en tôle. Ben pourquoi tu fais cette tête ? Est-ce que tu peux être coincé ? Sais-tu que c'est le gendarme Abgral qui a découvert Francis Holm ? Je ne sais pas ce que j'ai, mais en ce moment, je suis à fond dans les serial killers. Je collectionne tout ce que je trouve sur eux et je le colle dans des cahiers. Je te les montrerai. Holm a beau avoir 10 ans de moins que toi, il a quand même tué au moins 70 personnes avec son Opinel. Et il aurait très bien pu ne jamais se faire prendre. À 16 ans, tu répétais sans arrêt à ton oncle Walter que Le Corbusier était un facho. C'était son maître, mais ça le faisait beaucoup rire quand même. En 1945, à Evere, à la Libération, des partisans ont voulu me tondre à cause de ma chevalière. Elle était à mes initiales. SS. C'est un voisin qui est passé par là, qui m'a sauvé et ramené chez mon père. Je lui dois une fière chandelle à celui-là. Les Arméniens ont un sens de la famille bien plus fort que nous. Et évidemment, toi, André, tu n'as jamais voulu l'appeler papa. Pourtant, tu avais à peine 4 ans quand je me suis collé avec lui. On pourrait penser qu'à cet âge-là, tout reste possible, non ? De toute façon, vous avez quand même fini par vous habituer l'un à l'autre, non ? Allègre. Qui l'a protégé ? Boudis passe pour une victime, mais dans son livre, il ne mentionne même pas les femmes qu'Allègre a tuées. Parce que c'était des putes ? Moi aussi, j'en suis une. Et je l'emmerde. Tout ça est loin d'être net, je te le dis, moi. André a tout de suite plu à mon père, alors que Jacques, ton père, mon père le détestait. Mon père, c'était simple. Soit tu travaillais, tu étais quelqu'un de bien, soit tu ne travaillais pas et tu étais la dernière des fripouilles. Tu voulais faire l'acteur. Je t'ai payé des cours, même des cours de chant. Tu gagnais ta vie en faisant de la figuration, mais comme d'habitude, au bout d'un an, t'as tout laissé tomber, soi-disant parce que tous les acteurs étaient des pédés ou des crétins. Mais quelle importance ça avait, hein ? Personne t'obligeait à coucher avec eux, non ? Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu ? 4-5 ans ? Tu me trouves changé ? Je suis resté assez bien, non ? De toute façon, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Y a pas de raison que ça bouge maintenant. C'est un sous-sol, ok. Mais grâce au soupirail et aux vitres de la cour, j'ai autant de lumière qu'aux étages, et c'est deux fois moins cher. Avec mon grand congélateur et avec les produits blancs que je prends, je me débrouille pas trop mal. Danny pensait que tu devais me défendre, et par tous les moyens. Tu pouvais même aller jusqu'à buter un tube si nécessaire, car la justice, vu la mère que t'avais, pencherait automatiquement pour toi. Ce qu'il était fin, ce salaud.
Merci Alain à Marie Glio d'avoir lu un extrait de Maman, d'Yves Tanret. Donc là, effectivement, il mélange dans ce récit le portrait de sa mère qu'il revoit alors qu'elle est malade et des extraits d'informations, de journaux, de reportages sur les tueurs en série. Et c'est ça qui a été le déclic du livre, cette manière de sortir du plat et de...
Son idée, enfin, ce qui lui a permis de sortir de l'ornière où il est resté quand même bien longtemps, et c'était très intéressant pour lui, la construction du livre, dont il a fait plusieurs écritures complètes, enfin, il a repris tout à zéro plusieurs fois, c'est l'idée des courts paragraphes. Et à ce moment, parce que tout est basé sur le verbe de sa mère et sur ce qu'elle lui disait. Et donc, effectivement, il y a plusieurs composantes là-dedans. Il y a les reproches, mais dans les premières versions, il trouvait qu'il était sur le ton de la récrimination et que donc il y avait que cet aspect-là était très dominant. Donc, il y a les reproches que lui fait sa mère et qui sont quand même très drôles, parce qu'on a parlé tout à l'heure de son enfance. Donc, il faut imaginer cette table où, autour de la table, il y a que des malfrats, des prostituées, des voleurs, et où, finalement, ils lui font tous la morale, à lui, qui lit des bouquins en cachette, et où ils lui disent « Mais quand même, qu'est-ce que tu vas devenir ? Regarde, un tel, il a un métier, elle est pute. Bon, toi qu'est-ce que tu vas pas rester à lire des livres ?» Et ça, c'est vraiment très, très drôle. Et donc, il voulait rendre aussi le côté absurde, enfin, en même temps très logique, puisque finalement sa mère était devenue d'une certaine manière une petite bourgeoise grâce à ce travail. Alors il arrive comme ça à mêler différentes choses qui apparemment n'ont rien à voir, mais qui constituent quand même une vie, celle de sa mère et aussi la sienne. Et donc on va trouver ce genre d'histoire, des reproches sur le côté sérieux qu'il faut qu'il acquiert assez rapidement s'il ne veut pas rester comme ça toute sa vie un parasite. Et ça va être un thème très récurrent dans son œuvre et dans sa psyché. Parce qu'un jour, il m'a dit, moi, tu sais, ce qui m'anime, c'est la peur du manque. Donc, ça part de là, ça part de là. Et puis aussi, le génocide arménien, parce que son beau-père était arménien, donc leur raconter ses histoires et apporter aussi des recettes qui venaient de Turquie. Donc, en Belgique, c'était extrêmement exotique. Et puis, les serial killers, parce que sa mère s'était pris de passion pour cette chose-là. Et du coup, il connaissait lui-même très bien le sujet.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, dans « La vie est un roman » d'Yves Tanret, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. On va marquer une première pause musicale avec un morceau de Vivien Savage qui s'appelle « La petite Lady ».
Voyage, j'ai peur de rien. Ah là là, qu'est-ce que tu bouges bien? quand tu te promènes sur ce quai de gare Cendrillon. Tu marches comme une reine dans les yeux de ces types qui traînent avec leur blouse de fin de semaine. Et moi, comme je t'imagine, aussi givré qu'une mandarine, j'ai pas te laisser partir avec un légionnaire.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Thoret, à qui nous rendons hommage aujourd'hui. On vient d'écouter Vivien Savage, La Petite Lady, alors un morceau très pop, très top 50, un tube des années 80. Jean-Michel, le pop pour lui c'était important, la culture pop.
C'était essentiel, il n'y avait pas que ça. Hein. Je pense que c'était essentiel, oui. Et je pense que surtout pour lui c'était... Ce qui était important, alors il avait des fixations, un petit peu sur Dylan, mais surtout sur Hendrix, sur Them, le chanteur de Them.
Van Morrison.
Alors il chantait, il imitait Van Morrison admirablement bien, mais c'est le côté gouailleur de Van Morrison qui lui plaisait. Voilà. C'est le côté prolo de Van Morrison, je pense. C'est... Parfois, il surjouait ce côté prolo dans la conversation. Il surjouait tout, de toute façon. Non, il était. C'est d'ailleurs, c'était un des points où on s'entendait bien. Quand il commençait à s'intéresser à quelque chose, c'était à fond. Donc, il connaissait tout dessus. C'était intégral. Voilà. Donc, parce qu'il connaissait aussi bien la musique contemporaine, la musique classique, non les choses un peu exotiques, je pense, je n'ai pas de souvenirs. Mais son côté pop, c'est aussi quelque chose que je pense qui était très important pour lui, c'est de rester jeune et d'être avec des jeunes. Alors, il faut savoir que, bon, il avait été enseignant à Mulhouse, et pendant des années, ses anciens élèves sont venus le voir à Paris. Et c'était extraordinaire parce que c'est comme on se serait cru en Chine. Lui, il détestait l'idée du maître en Extrême-Orient. Mais il était, pour ses élèves, c'est ça qu'il était. Il était un maître à la façon où les maîtres chinois ont des disciples. C'est-à-dire, ça n'a rien d'infamant d'être le disciple d'un maître et c'est pas infamant d'être un maître. Être un maître et avoir des disciples, pour Yves, c'était vraiment ce qu'il y avait le plus abject au monde. Bon. Mais. Alors, ce qui était, à un moment donné, il y a quelque chose qui a contribué vraiment, je pense, à lui faire beaucoup de tort mentalement et psychologiquement, c'est quand la génération de ses élèves a eu 30 ans, 40 ans, etc., etc. Plus personne n'est venu le voir. Et là, on a vu vraiment un changement. Il ne sortait plus de chez lui. Il allait juste, quand il y avait un vernissage, il allait, il attendait que j'arrive, et repartait.
Moi, je l'ai connu faire des expositions grâce à ses anciens étudiants. Il n'y a pas si longtemps encore, une dernière dessin qu'il a affiché.
Là, c'est les expositions de ses dessins.
Oui, bien sûr.
Mais autrement, je pense qu'il y a effectivement une sorte de vide qui s'est fait autour de lui. Alors, il aimait bien qu'il y ait des visiteurs, quoi.
Sa grande passion, hein, en dehors de la pop musique, même du mouvement pop, Ce sont les avant-gardes, hein, l'art et la politique. Absolument. Intimement liés, où création et révolution, pratique artistique et usage de la vie ne se distinguent pas. C'était vraiment très important pour lui. Ce qui explique aussi, quand on revenait sur le fait qu'il avait le sentiment de ne pas toujours accomplir une œuvre ou de ne pas avoir réussi quelque chose. Mais l'art, c'était d'abord une manière de vivre, hein, Alain.
L'art, c'est un des grands sujets de sa vie. Il dit volontiers, entre la politique et l'art, j'ai choisi l'art. Les deux étant... l'international situationniste, c'était peut-être le lieu où les deux... finalement se fécondait et puis s'équilibrait, mais in fine, l'art l'art est consolateur finalement, et puis c'est une pratique. Et dans la politique, il voit deux composantes. Donc je pense que sur la politique, il est assez... à la fois, c'est un être extrêmement politique, mais si on lui parle de politique, il peut dire que ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il y a plusieurs manières de le concevoir, comme il dit, il y a politique et politique, et donc d'un côté il voit ce qu'il appelle un lamento, une plainte gémissante et impuissante sur l'actualité, et donc ça c'est la politique qu'il ne veut pas fréquenter, parce que finalement rien n'en sort, et puis il y a la politique... qui concerne la vie de la cité, et ça le passionne, et c'est là que je rejoins tout à fait Jean-Michel sur les passions qu'il peut tout à coup développer sur un aspect, l'architecture par exemple, ou sur tout ce qui va avoir trait à des sujets sur la vie des gens. Ces gens pouvant être effectivement les jeunes et pouvant être ses élèves. Et le défi à Mulhouse, ça il en est extrêmement surpris, c'est que lui il le voit la prof dans une école des beaux-arts, et puis les élèves ne lisent pas. Et lui, il est d'abord historien d'art, puis finalement historien des idées, et il décide de s'affranchir. Il faut qu'il réinvente sa manière de travailler avec ces jeunes, et il y arrive parfaitement bien en s'affranchissant des cadres. Et ça, l'affranchissement des cadres, c'est aussi un de ses sujets. Donc l'art, oui, au sens où ça va être un terrain de jeu. Il aimait beaucoup cette expression, terrain de jeu.
C'est-à-dire que c'est plus l'œuvre qui compte, c'est la façon dont elle peut intensifier l'existence.
Oui.
Et finalement, le résultat, entre guillemets, compte peu.
Il y avait deux choses. Il y avait un concept très intéressant, c'est les hiérarchies tournantes. Alors, il aimait beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on est le chef à tour de rôle. Parce que dans la discussion, en fait, dans les débats, il n'en sort rien. C'est très intéressant, c'est une grande observation que fera plus tard Deleuze. D'un débat, il ne sort strictement rien. On sent qu'il y a de l'expérience là-dedans. Alors, il y a cette idée de hiérarchie tournante, et puis il y a l'idée, effectivement, de déplacer le terrain. Et alors, il y a eu un truc admirable. Il veut expliquer la philosophie de Heidegger à ses élèves. Il les emmène faire de la marche dans la forêt noire. Genre 20 km à pied. Mmh. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est changer le terrain réellement.
Jean-Michel voulait bien nous lire un extrait de Portrait de l'artiste en révolté, qui est un livre magnifique.
Alors, j'ai cité entre la préface, qui est un peu un résumé de ses façons de penser, de raisonner, et puis un texte sur Asgeirjorn. Finalement, j'ai choisi, je ne le dirai pas sans doute en entier, parce qu'il est assez long, Jorn, parce que ce qu'il aimait chez Jorn, c'est l'inachevé. C'est que Jorn était un individu totalement imparfait, qui faisait des peintures totalement imparfaites, souvent bâclées, et des peintures détournées. C'est-à-dire qu'il, sur des croûtes qu'il achetait aux puces, Jorn peignait des monstres à la Jorn, etc., etc. Alors, Asgeirjorn est une figure exceptionnelle de révolté en ce qu'il est totalement dénué d'amertume, ce qui ne l'empêcha pas de produire une œuvre tourmentée à l'agressivité revendiquée, œuvre traversée par de rares moments d'harmonie. Son histoire, incroyablement aseptisée dans les ouvrages qui lui sont consacrés, est pleine de bruit et de fureur, de misère et de maladie, de feu et d'excès. Ses amis et lui-même avaient des mœurs extrêmes, buvaient énormément, et la plupart du temps étaient incapables de se souvenir le lendemain de ce qu'ils avaient fait la veille. Ils s'aimaient passionnément et se détestaient avec tout autant de passion quelque temps plus tard. Ils étaient capables de s'exclure mutuellement et de ne plus jamais fréquenter les rejetés, les humiliant même parfois durement au passage. Certains en furent très malheureux et d'autres en gardèrent une rancune éternelle. Parmi tous ces enthousiasmes, deux furent particulièrement remarquables. La formation de groupes d'avant-garde et l'écriture frénétique de textes théoriques. Grand fédérateur d'énergie, ayant séjourné plus ou moins longuement dans la plupart des pays européens, il a eu une influence énorme de son vivant. La plupart des commentateurs, anciens ou actuels, de l'œuvre de Jorn, finissent toujours à un moment ou à un autre par déclarer que telle toile, telle série ou telle période est laide, bâclée, moche, pas de niveau, etc. Pourquoi ? Était-ce voulu de sa part ? Il savait peindre. Que joue-t-il ? Du free jazz ? Des artistes aussi remarquables qu'Henri Michaud, Vifredo Lam, Roberto Matta, Jean-Michel Atlan ou Jean Dubuffet l'appréciaient beaucoup. La postérité ayant jeté le bébé avec l'eau du bain, en gros le marxisme, et sa peinture ayant conservé une part de barbarisme trop importante pour les amateurs contemporains, on ne parle plus de lui aujourd'hui que dans les milieux de fétichistes nostalgiques du situationnisme. Jorn le Viking manie le pinceau comme une massue, commente Loro en 1967. Et en 1972, Jean-Clarence Lambert ajoute « Force comme énergie destructrice, la beauté liée à l'agressivité, le rire offensif, la déstructuration des formes. Ce sont là des notions spécifiquement nordiques. » Ah bon ? De toute façon, si cela le louait, les Français de manière générale ne l'apprécient pas. Sa dernière exposition personnelle à Paris date de 1978. Il semble donc normal qu'on ne dispose pas d'un bon livre sur lui, à la seule exception d'un époustouflant livre d'entretien avec un général belge. Situationniste. C'est moi qui ajoute. Jorn est mort à 59 ans d'un cancer des poumons. Ex-tuberculeux fumant cigares et pipes, il a toujours eu la bougeotte et a partagé sa vie successivement avec une poignée de femmes, Kirsten Lindborg, Marie van Domseler, Nana Etzenberger, etc. Et pas mal d'enfants. À sa mort, son petit dernier avait un an et demi. Dès qu'Asgorjorn peut partir de chez lui, il le fait. Il s'agit d'une petite ville de 5000 habitants qu'il aime et dans laquelle il reviendra souvent, en particulier avec les nombreux camarades qu'il se fera tout au long de son existence et où il fondera un musée. C'est en motocyclette qu'il arrive en 1936 du Danemark à Paris. Il a découvert la peinture très tard, fait des études d'instituteur, va crever la dalle pendant très longtemps, mais il en veut et pas qu'un peu. Son père est mort quand il avait 12 ans en abandonnant 6 orphelins à leur sort. À Paris, il suit l'enseignement de Fernand Léger et participe à la décoration du pavillon des temps nouveaux de Le Corbusier pour l'exposition universelle de Paris, celle-là même où les nazis et les staliniens ont comparé la taille de leur phallus. Il mettra 10 ans ensuite à se délivrer de l'influence de Léger. « Pour un Danois, une liberté sans spontanéité est une aberration », écrira-t-il plus tard. Jorn saura aussi de quoi il parle quand il anatémisera les apologues de l'emploi de la pureté du matériau en architecture. Ce qu'il reproche principalement à ces derniers, c'est de ne pas traiter la peinture à égalité avec l'architecture. À propos du pavillon des temps nouveaux, il remarquera « Même un produit aussi spontané et libre que des dessins d'enfants y sont représentés. Oui, mais qui font-ils ? Ils sont là comme des objets de propagande pour l'architecture moderne. Ce ne sont pas les meilleurs dessins qui sont choisis, mais les mieux adaptés à un contexte architectural. » Pour Jorn, les architectes ne comprennent pas l'importance de l'art. L'art est un mode de vie et non un objet décoratif. Dada et les surréalistes ont libéré l'art de l'esthétisme. Ils ont donné place à l'immonde, à l'absurde, au contradictoire, à la laideur, au criard. Ils ont accepté la fécondité de la vie. À présent, l'art n'imite plus la vie, il est la vie. Les architectes sont victimes de la spécialisation à outrance qui marque l'actuelle société industrielle et de plus pensent avoir droit à une prépondérance sur les autres domaines. En même temps que le pavillon étant nouveau, les surréalistes avaient créé des intérieurs à Paris qui donnaient des perspectives bien différentes de l'évolution de notre milieu, où les architectes disent « soleil », ils disent « obscurité », où ils disent « place », on répond « labyrinthe », « impraticable caverne », si on dit « plan », ils disent « hasard », si on parle de rentabilité, ils exigent l'inutile.
Merci beaucoup Jean-Michel Yoyotte de nous avoir lu un extrait de Portrait de l'artiste en révolté.
On peut enchaîner sur le fait qu'il a énormément travaillé sur l'architecture.
Oui.
Énormément.
Et son autre passion aussi, c'était le dessin. On en parle juste après la seconde pause musicale. On va écouter un morceau de Daniel Dar qui s'appelle « Pas pour moi ».
Depuis le plus loin que je me rappelle, j'ai traîné partout sur les chemins. J'ai toujours trouvé la vie belle. Pourtant j'ai rien. Jamais je me suis dit c'est triste de ne plus être sûr du lendemain. Au fond du moment qu'on existe, je trouve que c'est bien. Pas pour moi les grosses bagnoles qui étincellent, pas pour moi les belles filles en robe de dentelle, Mais je m'en fous parce que moi j'ai besoin de personne. Et d'hiver jusqu'à automne, je vis sans un sou. Pas pour moi les beaux châteaux, la vie de palace. Pas pour moi les restaurants de première classe. Ah, ça fait rien, moi je mets un croix à ma ceinture. Je garde ma ligne pourvu que ça dure. Ça sera très 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 bien. Au fond, tout ça, c'est bien des blagues. Quand on me dit c'est pas pour toi, toutes ces victoires et toutes ces vagues, moi j'y crois pas. Moi je me balade le long des rues et je colle mon nez sur les vitrines qu'elles présentent des filets de morue ou du platine. C'est pour moi les coraux du musée du Louvre. C'est pour moi les boîtes de fruits confits qui s'ouvrent. C'est pour moi les belles filles en robe à longue traîne sur les marches de la Madeleine au mois d'avril. C'est pour moi les gros remorqueurs et les péniches. C'est pour moi les beaux petits gosses et leurs boniches. J'ai tout ça et j'ai toujours le cœur en fête. Car dans les rues comme dans ma tête, tout est à moi. Tout est à moi. Pas pour moi les grosses bagnoles qui étincellent. Pas pour moi les belles filles en robe de dentelle. Mais je m'en fous parce que moi j'ai besoin de personne. Et de l'hiver jusqu'à l'automne, je suis sans un sou. Pas pour moi les beaux châteaux et la vie de palace. Pas pour moi les restaurants de première classe. Ah ça fait rien, moi je mets un cran à ma ceinture. Je garde ma ligne pourvu que ça dure. Ça sera très bien. Pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi.
Daniel Darc, Pas pour moi, c'est une reprise de Boris Vian. Alain, ce morceau, Yves Tanré l'adorait. Il écoutait, ça le faisait même pleurer, je crois. Oui. Ça parle de lui, évidemment.
C'est ça. Il était, ça le représente à plusieurs titres. D'une part, il se voit comme ça, n'ayant pas accès à certaines choses. Et puis finalement, et notamment dans le domaine artistique, passant de « c'est pas pour moi » à « tout est à moi ». Et quand on écrivait Koufouré rue des Frigos, on discutait, on n'était pas tout à fait d'accord sur grand-chose, à vrai dire. Et donc, moi, voilà, mon côté bon élève faisait que j'aime beaucoup pratiquer les citations et j'aime bien mettre des guillemets autour. Et donc, je fais les choses dans les règles de l'art. Et ça, c'est un truc qui, pour Yves, était un non-sens total. Parce que dans le domaine artistique, finalement, tout est à tout le monde et on n'a pas besoin. Alors, voilà un moment donné où il m'envoie ce mail. Et c'est comme ça que la chanson a fait irruption dans l'écriture du bouquin et a réglé d'un coup plein de problèmes. Il dit, alors en plus c'est écrit vraiment comme... Je ne parle pas de citation. La citation n'est pas fluide. Donc c'est Yves qui m'écrit pour m'expliquer. Elle bloque la lecture, c'est moche, c'est souvent de la frime. J'ai pas du tout aimé l'Irlandais que tu viens de lire. C'était Ken Bruyan, un auteur de Polar. La citation, c'est ambigu, du pouvoir symbolique, une mauvaise façon de vendre la partie pour le tout, du fétichisme. Je ne parle pas de ça, je ne parle pas de la culture qui est haïssable. Je parle de prédation. Tout est à moi et j'en fais ce que je veux. Ce que j'aime est à moi. Est-ce qu'on mettrait la chanson Vian d'Arc en une demi-douzaine de citations dans Coup de froid? Et après, il explicite son propos, je passe un passage et il arrive à ça. Si tu veux, entre un livre que tu lis, une promenade dans la ville et une conversation dans un bistrot, tu fais pas la différence. Donc le livre, tu le cites pas comme une autorité ou une référence poétique, mais comme un aspect de ton vécu. Et là, il m'a clarifié un paquet de trucs. Et alors il continue, l'un des auteurs parmi les plus connus et aimés et lus et relus et commentés chez les intellos, Today, Walter Benjamin, ne vérifiait jamais ses citations ou les réécrivait pour les besoins de ses argumentations. On n'est pas des pions, nous sommes des seigneurs, tout est à nous.
Jean-Michel Yoyotte, ça vient un peu aussi de la tradition du détournement qu'ont encensé les situationnistes.
Je pense qu'il faisait plutôt naturellement du coupé-collé.
Le cut-up à l'américaine.
Non, mais naturellement, c'est-à-dire que c'est. On communiquait par mail. Il me demande, bon, qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Je réponds, bah voilà, ta 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 ta. Et dans le bouquin, je retrouve ça, tel quel. Le portrait de Jérôme Malsain, c'est quasiment le coupé-collé qu'il a mis dans Comment j'ai tué la Troisième Internationale situationniste.
C'est-à-dire qu'il pouvait pas faire. Parfois, il faisait pas de différence entre une grande déclamation qu'il avait tenue dans un comptoir, mail qu'il envoyait, une lettre qu'il écrivait, un paragraphe qu'il faisait paraître dans une revue ou un extrait de ses livres. C'était pour lui toujours la même énergie, la même verve.
Tout à fait.
Et les séparations sont arbitraires.
Oui, oui.
Donc c'était une manière de vivre aussi la littérature, d'incarner le verbe.
Je pense que c'est aussi une façon de... Il y avait quelque chose qu'il détestait, c'était le pédantisme. Si on rend la citation à son auteur, c'est un côté universitaire détestable. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de ça aussi.
Alors il pouvait être narcissique, colérique. On ne va pas cacher ce trait de caractère.
Oui, oui.
Il y avait des énervements homériques. Mais à la fin, c'était toujours le potlatch, le don et le rire qui l'emportait. Il avait une passion pour la transmission, pour la réunion. Moi, ce que je garde de lui, c'était vraiment cette idée de mettre les gens en relation, créer des liens, les faire travailler ensemble. D'abord faire la fête, d'abord boire des coups. Et ensuite, les faire accomplir des projets à plusieurs. Ça, c'était vraiment très, très spécifique à sa personne. Voilà.
Oui, oui.
Vous avez travaillé avec lui, donc en duo, vous avez écrit à quatre mains.
C'est ça, on a écrit ce livre à quatre mains. Et il existe d'ailleurs un manuscrit qui est toujours. Qui ne nous satisfaisait ni l'un ni l'autre, et donc à qui il manque pas mal de choses, mais dans lequel il y a aussi de très bonnes choses, parce qu'il avait des fulgurances. Enfin, il est très doué pour le petit format et pour des textes. Court, un peu comme ceux que vous avez édités dans tes 37 conseils pour de surtout jamais écrire un livre. Moi, je trouve ces petits textes vraiment, vraiment excellents. Et de travailler avec lui, c'est vrai que c'était aussi s'engager dans du vrai travail, parce que c'est ce que disait Jean-Michel. On s'enfonçait dans un puits de mine. Des fois, on allait regarder comment la ville de Paris, à un moment donné, s'était structurée avec les HBM autour. On allait en bibliothèque pour trouver des documents originaux. Tout ça pour, à l'arrivée, en faire quelque chose ou pas. Ou éventuellement, c'était ça, le rapport au plagiat. Effectivement, tout est à lui. Donc, dans son esprit, c'est pas du tout du plagiat. Non, et ce non, mot, non, il le récusait d'ailleurs. Non, je lui dis, mais ça, c'est du plagiat. Il me dit, qu'est-ce que c'est de quoi tu me parles? C'est pas du plagiat, puisque ça a été écrit. Donc maintenant, ça fait partie de ma vie, puisque je l'ai lu. Donc pour moi, c'est juste un élément de l'expérience.
Oui, c'est une idée que ça fait, c'est domaine public.
C'est ça, exactement.
Ouais, c'est...
exactement.
Il n'y avait rien plus d'étranger à lui que les droits d'auteur.
Ouais, non,
c'était
absolument.
Une insulte, ce terme-là.
Ouais,
c'était odieux.
Absolument.
Il avait une très grande liberté. Paradoxalement, il aimait la contrainte, il aimait s'imposer des heures de travail précises, mais surtout des formats. Et je me rappelle, pour l'avoir édité effectivement aux éditions de l'Irrémissible, 37 conseils pour réussir à ne surtout pas écrire un livre. Il adorait qu'on travaille sur le nombre de pages, le nombre de lignes, sur à chaque fois, si on pouvait enlever des choses, ça ne le rebutait pas du tout, au contraire. Jean-Michel, vous avez perçu ça, c'est lui, ce paradoxe apparent de mélange de liberté et de contrainte?
Je crois qu'il aimait la contrainte comme parce que il savait qu'il avait tendance à être verbeux, à se répandre, etc., etc. Donc je pense que c'est surtout si on lui dit 35 pages, il fait 35 pages. Je ne sais pas s'il allait jusqu'à compter les caractères et intervalles, mais curieusement, c'est ce genre de contraintes sont intéressantes parce que On avait toujours l'impression qu'il écrivait de façon bordélique. Or, l'acceptation de ce genre de contrainte n'existe pratiquement que chez des gens qui écrivent très bien. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent enlever tant de caractères, de trucs internes. Ce que les éditeurs demandaient quand il y avait des éditeurs qui faisaient leur boulot. Ils demandaient, bon là, etc., etc. Donc c'est... Non, je pense qu'il avait besoin de guide, il avait besoin de béquilles.
De guide, oui. Alors, il n'était pas religieux, hein. Il pouvait même se révéler anticlérical primaire,
oui,
mais il n'était pas dénué de toute mystique. Hein. Il croyait au verbe, à sa toute puissance, mais aussi au chamanisme, au taoïsme. Il en a parlé avec vous, Alain ?
Chaman, j'ai la vidéo.
Oui, oui, il a des performances sur ce thème. Et c'est vrai que comme il était attiré partout et que ce thème du chamanisme. Alors, la nature, c'était pas forcément son truc. Et j'ai vu un point de bascule. Et ça, c'est politique, ça. C'est au moment où il a vu, et où nous avons tous vu, les moineaux disparaître des villes. Mmh. Et lui s'assimilait à ces moineaux. Pour lui, il était un de ces petits oiseaux chapardeurs, un peu familier, un peu insolent. Et ça lui a fait énormément de peine. Mmh. Et c'est de ce jour qu'il s'est mis vraiment à... Parce qu'auparavant, quand je lui parlais des problèmes écologiques, il me regardait comme il regardait un curé, justement, et il me disait, bon, ça, c'est des peurs millénaristes. Il voyait ça sous le prisme de l'histoire de l'art.
Il avait une résurgence. La nature, à la limite, ça aurait été presque sa licence. Ça allait avec le fait qu'il ne supportait pas le contact. Il faisait du tai chi, à un moment donné. Et je lui dis, mais écoute, si tu fais du tai chi tout seul, tu ne peux être que mauvais. Sans le contact, y a des gens qui en font, mais c'est de la merde. Bon, sans le contact, c'était phobique chez lui. Phobique. C'est, faut pas le toucher.
Quel souvenir vous gardez de lui, maintenant qu'il nous a quittés, et même s'il nous a légué ses livres et une magnifique émission de radio, Alain ?
Alors d'abord, je me fais vraiment pas à l'idée qu'il nous a quittés. Et il me semble que c'est un... Il y a deux types de fantômes. Il y en a qui sont complètement absents, qui disparaissent de notre vie comme ça. Et puis il y en a qui restent assez présents. Et il me semble, c'est un peu tôt pour le dire, mais il me semble que c'est un fantôme assez présent. Peut-être à cause du verbe, parce que c'est souvent, on les entend ils nous parler. Moi, je l'entends raconter ces histoires, et puis j'entends ces mots. Tout à l'heure, Jean-Michel a dit un mot qui était important, c'est pédant. Quand il avait l'impression qu'on commençait à s'écouter parler, il disait, c'est moins un mot qu'il utilisait, mais du pédantisme, ça, il aimait pas du tout. Alors, j'en ai noté quelques-uns, là, des mots positifs, il y a fraterniser. Il aimait bien ce mot, fraterniser. On a fraternisé. Ça veut dire on a bu un coup, on s'est parlé, puis finalement, c'est bien entendu, on a fraternisé. Ou quelque chose de fluide. Quelque chose de fluide, c'est bien, par opposition à quelque chose de pesant, de lourd. L'écriture, autant que possible, il voulait qu'elle soit fluide, comme le verbe. Et quand on n'arrivait pas à écrire quelque chose, et qu'on était en train de parler, et que ça se passait bien, parce qu'on échangeait de manière fluide, toujours, il disait, voilà, il faut qu'on arrive à écrire comme exactement ce qu'on vient de dire. D'où l'importance pour lui de voler les mots. Enfin, c'était pas un vol, mais tout est à moi. Ça veut dire aussi, si tu dis un truc chouette et que je l'entends, il faut vite que je le mette dans mon... Parce que ça, c'est vivant, c'est du vif. Donc, c'est le contraire de ce qui est pesant et pédant. Tu l'as dit, donc c'est bien.
Jean-Michel.
Moi, sa présence, c'est qu'il est toujours présent pour moi dans la mesure où je continue de lui parler. C'est-à-dire comme certaines personnes qui écrivent, j'ai l'habitude de parler les choses. J'ai une tendance spontanément à préférer l'oral, parce que l'oral, c'est comme le modelage en sculpture. On peut rajouter de la matière, on peut enlever, on peut se corriger au fur et à mesure. Il y a un inachèvement qui fait que la vraie précision, c'est dans cet inachèvement. Voilà. Et donc, je continue de lui parler, quoi. Alors, j'ai pas ses réponses parce que je ne sais pas l'imiter. Voilà. Mais je continue d'essayer de le convaincre, etc., etc. Voilà. Je le prends à témoin. Debout, c'est toujours debout, c'est avec les gestes. Donc, c'est toujours un interlocuteur.
Moi, je l'ai connu un peu plus tardivement. C'était au début des années 2000. Je faisais une revue qui s'appelait Social Traître. Et je l'avais invité à collaborer à cette revue. Et alors, ce n'était pas en signe de remerciement, mais lui, après, m'a invité à parler de mon livre Métaphysique du rock dans son émission de radio. Et puis, il m'a invité en tant que chroniqueur parce qu'il recevait Arnaud Vivian. Il me dit, moi, je connais rien sur Arnaud Vivian. Je dis, moi, je connais très bien, j'ai tout lu. Enfin, je te fais ta chronique. Et puis après, il me dit, j'avais la possibilité d'avoir Rodolphe Burger. Je dis, je veux bien revenir pour Rodolphe Burger, si tu veux. Et de fil en aiguille, je suis devenu chroniqueur de son émission de plus en plus régulièrement. Et puis, quand il est tombé malade, il m'a dit, écoute, cette émission, prends-la, elle est à toi. Ce que je garde de lui, c'est un sourire magnifique. Une irréduction hors norme, un anticonformisme viscéral, un goût pour la liberté sans limite, et une joie qui l'emportait sur la déprime et la colère, et un amour de sa femme et de ses enfants. On les salue encore, Magali, Anna-Livia et Ulysse. Voilà, c'était l'émission en hommage à Yves. Merci à René Clancy d'avoir assuré la technique. Merci au moment de nous accueillir dans leurs locaux. La liberté et l'indépendance de Aligre FM, ça n'a pas de prix, mais ça a un coût. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous allez sur le site. Il y a appel aux dons. Vous cliquez dessus. C'est déductible d'impôts. Et nous, ça nous aide à continuer à avancer et à être digne de la mémoire de Yves. Pour notre part, on va se retrouver la semaine prochaine avec Loletta Pile pour son Antigone Reine. Merci beaucoup Yves, évidemment, cette émission, elle est pour toi. À bientôt.